France Culture. Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, produit avec la collaboration d'Avril Ventura. Perret Legras en assure la réalisation, Ludovic Auger la prise de son. Ce soir, un attendu et des malentendus, nous réfléchissons à l'autonomie des élèves. Ce serait la pierre philosophale de l'éducation, la qualité ultime de l'enfant à l'école qui s'approprie la demande des enseignants et qui travaille en comprenant ce qu'il fait. L'autonomie. D'ailleurs, cela fait partie des bonnes remarques sur les bulletins de celles qui font plaisir aux parents, élèves autonomes. Vous le dites, Patrick Rayou, l'autonomie est devenue un principe éducatif à tel point incontestable qu'elle semble requise de plus en plus tôt dans la scolarité. Dès la maternelle, sans que soient forcément interrogées les conditions qui la rendent accessible à tous les élèves, évidemment. On va en parler, la diffusion de cet idéal est problématique car il y a des tensions dans la conception de l'autonomie, lesquelles on va essayer de les expliquer. On va parler des obstacles, on va parler des mythes liés à l'autonomie des élèves et peut-être même des enfants plus généralement. Et puis nous examinerons les contextes et l'organisation du travail qui rendent l'autonomie des élèves possible. On va écouter deux enseignantes ce soir en parler très précisément. Enfin, ne faut-il pas la critiquer, cette notion d'autonomie qui fait tant reposer sur l'individu seul, la responsabilité de ses réussites et de ses échecs? Ça, on en discutera en dernière partie. Bonjour Patrick Rayou.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 et le livre dont nous parlons aujourd'hui s'intitule « L'autonomie des élèves, injonctions, pratiques ». Inégalité, il a été publié en 2024 aux presses universitaires de Lyon. Vous êtes également l'auteur de Sociologie de l'éducation qui a vu paraître sa troisième édition en 2024. Évidemment, c'est un puf, hein, que sais-je. Alors, pourquoi parler de l'autonomie aujourd'hui? Peut-être on peut chercher à définir ce que vous posez comme une qualité presque indispensable, en tout cas très attendu. De quoi on parle quand on dit autonomie scolaire?
Alors, d'abord, c'est pas moi qui en parle. Dès que vous faites des enquêtes, vous avez des enseignants, des élèves et de ça qui vous parlent de l'autonomie et qui la considèrent comme quelque chose qui est requis, qui est nécessaire, qui fait partie de l'objectif éducatif principal. Mais très souvent, vous avez en même temps, mais pourquoi ne sont-ils pas aussi autonomes que nous le souhaiterions et pourquoi nos prédécesseurs? Alors, vous savez, c'est un peu le principe de la patate chaude. Hein. Les professeurs du supérieur regrettent que les lycéens soient trop peu autonomes. Les enseignants de lycée regrettent qu'on leur livre des collégiens trop autonomes. On peut régresser jusqu'au jardin d'enfants. Il y a cette espèce de... Voilà, c'est pourquoi ce sujet m'a intéressé. Parce qu'à la fois, il y a une attente générale de la société de produire des individus plus autonomes, ce qui correspond bien à l'idéal de société qui veut fabriquer, produire des citoyens critiques et qui est un héritage des Lumières, hein. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le revendiquer. Et en même temps, le sentiment, le ressenti d'une très grande difficulté à faire des élèves autonomes comme on le souhaiterait.
L'héritage des Lumières, c'est la reconnaissance de l'enfant et même de l'élève en tant qu'individu, individu qui pense par lui-même, et c'est bien un objectif de l'éducation, ce qu'on appelle l'émancipation. D'ailleurs, ce mot est de plus en plus présent dans les discours, je le note, des politiques quand ils parlent de l'école, et c'est presque à contre-courant, si on pense à tout ce qui arrive dans notre époque. Mais cette autonomie-là, quand je vous ai posé la question, on m'a dit, oui, voilà, on la désire, on la souhaite, elle est très présente dans les discours, même les enfants s'approprient ce terme. Pour autant, on n'a pas vraiment dit ce que c'était pour l'instant, Patrick Rayou.
Non, je crois qu'il y a beaucoup de confusion, hein, comme peut-être nous allons l'expliciter dans notre échange. Alors, quand vous dites les Lumières s'intéressent à l'enfant, j'en suis pas si sûr.
Non, c'est d'abord l'individu, voilà, il a fallu attendre un peu de temps.
Il s'intéresse à l'enfant comme futur citoyen. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on a un projet politique plus qu'un projet pédagogique, et que peut-être que nous n'avons pas comblé le fossé qui sépare les deux états.
Alors, l'autonomie, c'est agir par soi-même, prendre des initiatives, ça paraît assez éloigné du cadre scolaire parfois, c'est réaliser son travail sans qu'on ait besoin de vous le demander plein de fois. Ça, je trouve que ça se rapproche plus de ce qu'on attend par exemple en tant que parent dans la réalisation des devoirs. À quoi ça peut ressembler? Et je continue dans ma question, posons des définitions, elles sont sûrement multiples d'ailleurs, Patrick Rayou.
Alors, la définition, je dirais, étymologique et philosophique de l'autonomie, c'est qu'on se donne à soi-même des règles. Alors, la question est de savoir si c'est des règles qui existent déjà, ou si c'est ses propres règles. Et déjà, vous voyez, il y a un début de...
Voilà, malentendu.
De malentendu, en tout cas de possibles désaccords, de possibles ambiguïtés. Je crois que très souvent, on a tendance à confondre l'autonomie et l'indépendance. Hein. Politiquement, on sait bien la différence. Et une partie des élèves a l'impression que pour eux, être autonome, c'est être indépendant, c'est-à-dire ne rien demander à personne et faire un peu ce qu'on a envie de faire. L'autonomie à l'école, ça n'est pas exactement ça. Je peux continuer si vous le souhaitez. Il y a très souvent une... On voit des différences assez significatives entre élèves de alors je suis un peu sociologue, hein, donc vous m'excuserez, mais entre élèves de milieu populaire et élèves de milieu plus favorisé, c'est-à-dire dont la socialisation est plus congruente avec ce que demande l'école. Et pour beaucoup d'élèves de milieu populaire, de manière assez paradoxale, être autonome, c'est faire tout seul sans rien demander à personne. Là où la tradition philosophique consiste plutôt à penser que pour que l'être humain soit autonome, il faut qu'il s'approprie des éléments culturels qui sont à l'extérieur de lui et que l'école aide à en effet intérioriser, s'approprier. Mais c'est pas du tout l'idée qu'il est autosuffisant. Et là, ça engendre des malentendus assez importants qui sont pas simplement de l'ordre de la définition, mais de l'ordre de ce qu'on va mettre en pratique au cours de sa scolarité.
Donc savoir demander de l'aide,
oui,
c'est pas ne pas être autonome.
C'est tout le contraire. On voit des travaux, notamment de sociologues américains qui font des enquêtes de caractère ethnographique en s'installant dans les familles, etc. et qui nous montrent ces socialisations contrastées. Les enfants de catégorie supérieure sont habitués à considérer l'enseignant comme quelqu'un qui est à leur service, qui va leur donner les éléments pour réussir dans la vie. Les enfants de milieu populaire sont plutôt élevés dans le sens de « ne nous fais pas honte, n'apparaît pas comme étant en déficit et comme si tu ne savais pas ». Et donc, il y a une manière d'être soi et de ne pas perdre la face qui est assez significativement différente. C'est un peu différent sans doute dans le système français, mais on retrouve exactement ce même clivage entre le fait que être autonome, ça n'est pas du tout faire tout seul, c'est déjà être capable de savoir ce dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire, être capable de savoir à qui le demander, et pas simplement trouver le bureau du CPE.
Quand on est au collège.
Voilà.
Alors, l'autonomie, ce que notent beaucoup d'enseignants qui déplorent hein, ce manque d'indépendance dans le travail scolaire des élèves, baisserait et sera en perte de vitesse dans les classes. On le constate quand des élèves demandent de multiples validations de leur travail, toutes les 5 minutes, par exemple quand on suit des devoirs, c'est souvent relaté, est-ce que vous pouvez regarder si l'âge est bon, ne serait-ce que pour présenter une copie, écrire la date, et des élèves, et ça à mon avis ça concerne des élèves plutôt en difficulté scolaire, qui sont en attente de survalidation et en perte totale d'autonomie. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux qui fait qu'ils n'arrivent pas à se faire un minimum confiance pour avancer dans leur travail?
Oui, ce que vous dites est tout à fait vrai. On voit ça, par exemple, quand des élèves travaillent en groupe. Très souvent, évidemment, un des problèmes du travail de groupe, c'est que les professeurs ne sont pas dans les groupes, donc ils passent, hein, ils circulent. Et très souvent, les élèves qui sont là en train de travailler demandent à l'enseignant une validation de ce qu'ils sont en train de faire. Et pas du tout, ils sont pas du tout en train de l'exposer la démarche qui est la leur et à l'issue de quoi ils sont en difficulté ou au contraire, ils pensent avoir trouvé. Bon, il y a sans doute beaucoup de raisons. Il y a des phénomènes de socialisation familiale, comme je viens d'en parler, mais il y a, je crois, aussi une modalité d'évaluation scolaire, hein, qui en France sont des évaluations souvent sommatives, extrêmement fréquentes, et qui font que les élèves ont l'habitude ou croient qu'il faut répondre à des questions de manière précise, avec des productions impeccables, et sont rarement à envisager ce qui se passe d'une évaluation à l'autre. Là, c'est ça.
Donc l'évaluation sommative, on peut peut-être préciser.
Oui, bah,
si vous voulez, je le fais.
Voilà, non, vous avez tout à fait raison, mais peut-être que vous le ferez mieux que moi d'ailleurs. On la distingue de l'évaluation formative, c'est-à-dire que l'évaluation sommative, en général, vous avez une note ou une lettre ou quelque chose qui dit que vous avez atteint l'objectif. Alors, c'est très bien. Le problème, c'est que souvent, les élèves peuvent penser qu'après avoir validé l'objectif, ils ont acquis le savoir et encore plus la compétence, qui est quand même de notre ordre, qui suppose de la plus longue durée, qui supposerait une organisation par cycle mieux suivie. Mais ça, ça fait partie, à mon avis, des faiblesses de notre système, d'avoir du mal à s'organiser en fonction des processus d'apprentissage. Et vous savez, comme moi, les élèves disent, à la fin du trimestre, les profs, ils veulent des notes. Hein, et donc, on est assaisonné d'évaluation qui sont pas, je pense, ce qu'il y a de plus favorable à l'autonomie, puisque là, ils sont un peu à la merci de rythmes qui sont pas forcément les rythmes d'apprentissage.
Mais voilà un malentendu scolaire qu'on a tous rencontré quand le professeur, je crois avoir entendu cette phrase en fait, dit à la classe, vous travaillez pour vous, pas pour la note.
Bien sûr. À quoi répondent les élèves ? Oui, mais vous nous mettez tout le temps des notes. Donc, une espèce de jeu de on se tient par la barbichette, hein, qui fait que chacun a raison de dire à l'autre ce qu'il lui dit, mais qui, je crois, montre les limites de l'organisation scolaire contemporaine qui ne s'adapte pas précisément à cet état de l'autonomie qui est régi par le fait qu'on veut des élèves compétents et pas forcément des élèves régurgiteurs, hein, ce qui a pu se faire dans le passé. Moi, j'ai été élevé en partie dans cette école-là et qui suffisait largement pour valider les examens.
Donc des élèves qui réfléchissent sans qu'on leur dise toutefois comment exactement s'y prendre, ou pas suffisamment ou pas assez bien pour qu'ils puissent s'approprier ce travail peut-être plus complexe de réfléchir par soi-même, proposer un chemin de pensée et non seulement des réponses. En plus, bon, il y a tout un tas de tests assez différents les uns des autres à l'école. Je voudrais qu'on revienne sur cette réflexion. Vous l'avez dit, vous êtes sociologue, Patrick Rayou, cette réflexion que vous menez, qui est aussi philosophique, qui est aussi didactique. Vous inspirez d'ouvrages de psychologie. En fait, j'ai été très, très impressionnée par la bibliographie de ce livre, L'autonomie des élèves, qui fait vraiment plusieurs pages et où on trouve à la fois des classiques de la psychologie enfantine, des livres de sociaux bien connus, d'un peu toutes les époques, des livres disciplinaires comme Expliciter les savoirs structurants de la géographie scolaire. Donc c'est quand même pas rien, c'est très très précis. Pourquoi mobiliser toute cette foule de savoirs ? Je rappelle qu'il y a beaucoup d'enquêtes de terrain, ou peut-être je l'annonce parce que je ne l'avais pas encore dit, dans cet ouvrage, mais je reviens sur c'est toutes ces disciplines différentes qui s'agrègent pour essayer de réfléchir à ce que c'est que ce qui semble être un énorme sujet. Hein,
oui, à mon avis, voilà, l'autonomie. Je suis heureux, vous êtes une bonne lectrice, parce que alors c'est pas de l'étalage de lecture, bon, évidemment ça peut toujours être ça, mais c'est parce que je crois que sur la question de l'autonomie, il faut convoquer des éléments qui relèvent à la fois de l'autonomie de comportement des élèves, mais aussi de l'autonomie d'apprentissage des élèves, mais aussi de l'autonomie d'apprentissage des élèves dans des disciplines particulières. Et qu'il faut payer le prix de ce détail si on veut arriver à les aider. Aujourd'hui, il y a des modes pédagogiques, mais les modes ne sont pas forcément critiquables en elles-mêmes, qui ont tendance à dire, voilà, il faut que les élèves soient en activité. Question, qu'est-ce que c'est être en activité ? Souvent, l'enseignant prend des repères qui peuvent rester à la surface des choses. Il peut se lamenter, comme je l'ai vu parfois. J'ai moi-même remonté le moral de pas mal d'étudiants d'INSPE à l'époque qui disaient, mais il y a des élèves qui n'ont rien dit.
Étudiants-professeurs.
Oui, c'est ça, des élèves-professeurs. Je leur dis, mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne réfléchissent pas ? Et qu'est-ce qui vous dit que ceux qui parlent réfléchissent ? Il n'y a pas un rapport immédiat, total, entre l'activité visible des élèves et l'activité mentale. Et ça, l'autonomie requiert évidemment une activité de fonctionnelle, je dirais, si les élèves doivent se déplacer dans la classe, etc., bien évidemment, mais ça requiert surtout une habileté mentale qui consiste à se déplacer dans les savoirs, aller convoquer les savoirs, ce qui boucle un peu avec une question qui nous tient à cœur aujourd'hui, qui est la question de l'intelligence artificielle.
On va en parler, d'ailleurs.
Parce que je crois que là, nous sommes vraiment au seuil d'un moment dans lequel la question de l'autonomie va se poser de façon encore plus significative que ça n'était le cas jusqu'à aujourd'hui.
On met cette question un peu de côté pour après, mais ça m'intéresse beaucoup que vous fassiez la distinction entre être actif, être au travail, ce qui pourrait quand même être le signe qu'il se passe quelque chose dans la classe, que les élèves, s'ils travaillent, ils ne font pas rien, et après tout, on peut déjà s'en satisfaire, ils sont actifs. Et là, vous, vous dites, bah, parfois, non, en fait, tout ça, ça peut être brassé
oui,
du vent.
Oui, beaucoup de bruit pour rien, je dirais, hein, ou beaucoup d'activités pour rien. Ça peut être le cas. Les enseignants disent parfois, voilà, pour m'occuper des élèves et parce qu'ils veulent faire de la différenciation, qui en ont le plus besoin, je mets les autres en autonomie. En autonomie, ça veut dire qu'ils sont seuls. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément équipés pour faire ce qu'ils ont à faire. Et là, on rentre dans de l'ingénierie pédagogique et didactique qui est un peu plus complexe que celle de dire j'ai trouvé un sujet attrayant qui fait que ils vont mordre dans le gâteau que je leur donne aujourd'hui et à la fin de l'heure je serai satisfait parce qu'ils auront produit, etc. Et malheureusement, les effets en éducation se mesurent plus sur le long terme et pas forcément à la fin de la séquence. Et ça, c'est autre chose.
Mais c'est extrêmement difficile quand on enseigne, quand on est devant une classe, de mettre ses élèves en activité intellectuelle et d'être sûr, de savoir que ça se passe. Bien sûr, il peut y avoir cette espèce de vibration, d'éclair dans l'œil, d'ambiance qui change. Enfin, c'est pas non plus tout le temps, toutes les heures pour tous les enseignants. Évidemment. Donc, comment on fait, d'après vous, et qu'est-ce que vous avez pu relever dans vos enquêtes de terrain, qui fonctionnerait, évidemment, ça doit dépendre des enseignants, pour obtenir ça?
Mais, moi, je suis de plus en plus convaincu que ce qui fait qu'on peut aider les élèves, c'est quand on les voit s'exercer. Malheureusement, comme vous le savez, nous avons eu l'occasion d'en parler par le passé à propos des devoirs à la maison. Hein, depuis au moins le début du XXe siècle, dans l'enseignement du second degré, les séquences de 2 heures sont devenues des séquences d'une heure, pour des raisons techniques. Ce qui s'est passé, c'est que jusque-là, les enseignants avaient l'habitude de faire 1 heure de leçon, ou à peu près, et de faire immédiatement les exercices. On a sorti les exercices de la classe, hein, dans la plupart des cas, et je dis, pour moi, c'est un jeu perdant-perdant, parce que d'une part, l'enseignant perd des indications sur la façon dont les élèves travaillent, ce qu'ils savent ou ne savent pas faire, et donc s'ils sont autonomes ou pas, et les élèves perdent l'occasion d'avoir, au moment où ils en ont besoin, le recours, l'appui de quelqu'un qui sait exactement de quoi il s'agit. Et tous les dispositifs qu'on essaie de réinternaliser par le mode de devoir fait, etc., courent un peu après cette vision des choses.
Donc quand on fait faire les devoirs à l'école, mais pas par l'enseignant, ces devoirs faits, ou quand on suit soi-même Absolument. Les devoirs de son enfant, ou quand on confie cette tâche à une tierce personne ou une association, on risque de faire fausse route. Alors,
on risque de faire fausse route, sauf si on est un peu, et bon, j'ai fait un travail avec Séverine Capo où on compare des parents enseignants faisant travailler leurs propres enfants et puis des parents de milieu populaire. On voit des différences spectaculaires. Et lorsque parfois, plein de bonne volonté, on essaie de donner des méthodologies générales aux élèves pour qu'ils soient autonomes, en leur disant, voilà, une dissertation, ça se fait comme ça, une rédaction comme ça, etc., etc. C'est ce que j'appelle souvent de la méthodologie hors sol, parce que ce qui me fait comprendre les choses, et je pense que pour vous c'est pareil, et tous les êtres humains apprenants, c'est au moment où j'encontre une difficulté, j'ai la mallette de secours qui arrive, parce que c'est en temps opportun, et c'est les connaissances et les habiletés qui sont utiles. Et en général, c'est des choses qui sont acquises pour la vie. Vous savez, c'est de la maternelle au doctorat. Quand vous lisez des mémoires, qu'ils soient des mémoires de master ou des mémoires de thèse, lorsque l'étudiant joue le jeu et que l'accompagnateur joue le jeu, vous passez pas mal de temps à écrire des commentaires dans lesquels vous dites là, cet endroit, etc. Et la personne les retravaille
et elle fait un nouvel écrit. Donc c'est le bon conseil au bon moment.
C'est exactement ça.
Donc il faut connaître la méthode du prof.
Oui, connaître la méthode du prof ou connaître la nature du problème, hein, parce que heureusement il y a plusieurs manières de faire. Mais je crois que c'est les enjeux cognitifs qui sont derrière et que les familles populaires identifient très peu, et comment pourraient-elles les identifier d'ailleurs, elles-mêmes qui ont souvent été en délicatesse à l'école.
C'est-à-dire qu'on peut être contre-productif
en
cherchant à aider son enfant.
Oui, vous voyez d'ailleurs que dans les enquêtes, parfois les parents de milieu populaire qui disent « je n'aide pas mon enfant », et la raison c'est parce que j'ai peur de le faire tromper. Et que ça lui porte discrédit dans sa scolarité. Il y a souvent une conscience assez claire de l'incapacité à faire le boulot de prof à la maison.
Bon, de toute façon, il faut relire ce livre, faire ses devoirs, qui explique aussi toute la subtilité, hein, qu'il y a dans la méthode qu'on peut employer pour mettre son enfant au travail de manière autonome, c'est-à-dire l'inciter sans l'obliger. Et c'est vrai, les enseignants s'en sortent plutôt mieux que les autres. Ils savent mieux ce qu'on attend des enfants. On continue sur l'autonomie, Patrick Rayou, l'autonomie des élèves, qui est donc un attendu dès la maternelle. Dès lors, comment faire pour la favoriser? Sur le site, souvent intéressant, Canopée, qui s'occupe de la formation des professeurs en ligne, Émilie Marchetti, parle de cette définition donc de la maternelle.
Je définirais l'autonomie comme le fait de ne pas être dépendant des autres, de gagner en liberté. Ça développe chez les élèves le sens des responsabilités et la confiance en soi. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir apprendre à grandir pour les élèves, mais surtout de prendre plaisir à grandir. Pour moi, il y a plusieurs sortes d'autonomie. Il y a d'abord l'autonomie physique, par exemple le fait de savoir enlever son manteau, mettre ses chaussons, ranger ses affaires, se déplacer seul pour pouvoir aller aux toilettes, etc. Il y a l'autonomie affective. C'est ce qu'on va travailler dès le début de l'année et même en amont de la rentrée, la séparation avec les familles. L'autonomie intellectuelle, développer les responsabilités finalement et apprendre à faire seul. C'est ce que je peux mettre en place avec justement les plans de travail et les parcours d'autonomie dans la classe où les élèves finalement peuvent se gérer, c'est-à-dire voir ce qu'ils ont à faire, changer d'activité s'ils le souhaitent en cours de route. Et enfin, il y a l'autonomie sociale, c'est-à-dire pouvoir trouver sa place au sein d'un collectif. Souvent, en début d'année, l'enseignant, c'est le médiateur. On est médiateur entre les enfants pour leur apprendre à communiquer entre eux, à devenir amis, à échanger. Et peu à peu, en fait, il faut qu'ils puissent se détacher de l'adulte pour pouvoir faire seul, aller entrer en contact avec les autres seuls. Il y a plusieurs paramètres qui, à mon avis, entrent en compte pour travailler l'autonomie dans une classe. Il y a déjà l'aménagement de l'espace. Ça, c'est une des premières conditions. Quand je mets en place ma classe en début d'année, je fais attention à l'aménagement, c'est-à-dire à faire un espace aéré où j'ai un contact visuel permanent sur les élèves et eux aussi peuvent me voir peu importe où ils se trouvent dans la classe. Ça permet également qu'ils explorent davantage l'espace, qu'ils l'utilisent à bon escient. Ça, c'est un premier point. Une deuxième condition, c'est le temps. Il faut réfléchir à l'élaboration de l'emploi du temps dans le respect des besoins individuels de chaque élève. L'emploi du temps doit tenir compte, en fait, de leur capacité d'attention, par exemple, qui va être très courte en début d'année. Donc, il faut définir les modalités de travail, d'apprentissage en fonction et élaborer un emploi du temps qui va être évolutif tout au long de l'année et de plus en plus structurant. Après l'espace et le temps, ce qu'il me semble important, c'est de poser le cadre relationnel, rassurer les élèves, les encourager, les valoriser dans tout ce qu'ils font dans la classe. Ça se joue effectivement sur les plans en autonomie qu'on peut mettre en place. On laisse à l'enfant cette liberté de pouvoir regarder les affichages, choisir en fait ce qu'ils vont faire comme activité, en changer. Ça nécessite effectivement également qu'ils puissent se mettre où ils le souhaitent dans la classe, au niveau espace, et en changer quand leur capacité d'attention est limitée.
Et nous parlons d'autonomie des élèves avec Patrick Rayou. Vous consacrez un ouvrage, Patrick Rayou, à cette question, les malentendus aussi qui l'entourent. La professeure qu'on vient d'écouter, Émilie Marchetti, qui est également directrice d'école et qui s'exprimait sur le site Canopée, explique à quel point, déjà, l'autonomie, c'est une question de séparation, d'arriver à se séparer de ses parents en rentrant dans un univers nouveau, même pour les enfants qui ont été à la crèche. C'est très différent, l'école, et ça pose des premières questions qui sont très pertinentes à la maternelle. Qu'avez-vous retenu de cette vision de l'autonomie ?
Alors, moi, je pense que c'est une des composantes de l'autonomie qui est déclinée ici. On parle parfois d'autonomie fonctionnelle. L'autonomie fonctionnelle, c'est être capable de se déplacer. Voilà, les personnes âgées en ont moins. On a listé le nombre de gestes qu'il faut faire pour, à partir du moment où on décrète qu'on l'a ou qu'on ne l'a plus, etc. Mais c'est y compris l'autonomie de la batterie de mon téléphone. Je veux dire qu'on est là dans une autonomie qui est une autonomie qui est conçue comme si elle était stockée dans la personne. C'est une autonomie qui est très intéressante. C'est une composante, mais ce n'est pas la seule. Et je reviens un peu à la charge avec mon idée que l'autonomie, c'est le fait de pouvoir s'approprier tout ce que l'humanité nous a légué. Et je suis d'autant plus autonome que je me l'approprie. Et donc, moi, cette collègue, j'aimerais échanger en direct avec elle, parce que lorsqu'elle dit c'est ne pas être dépendant, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on est dépendant de beaucoup de choses. Je n'ai pas inventé le langage, je n'ai pas inventé les symboles mathématiques. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas inventées, et dont je suis redevable à plusieurs plusieurs siècles, voire millénaires d'humanité. Et être autonome, c'est pas du tout faire comme si on pouvait faire sans ça. C'est faire avec ça et faire un projet qui est le sien ou qui est celui de la société dans laquelle on vit, etc. Mais c'est surtout pas être tout seul.
Et en même temps, on a besoin de cette première autonomie fonctionnelle pour faire sa vie à l'école, avoir par exemple ses affaires, qui est une grande question, tout en tout cas dès le CP, arriver à l'heure, se préparer, savoir aussi reprendre ses affaires le soir, noter les devoirs, etc. Je ne vais pas tout lister. Et cette autonomie fonctionnelle, eh bien moi, elle m'intéresse beaucoup, Patrick Rayou, parce que je note qu'au fil des âges, en fait, on n'a pas forcément la même et ça ne progresse pas tant que ça. Mmh. Par exemple, les élèves de maternelle ont souvent, alors pas toujours, mais il y a des écoles, en tout cas, moi j'en ai vu, où on peut aller aux toilettes sans demander parce que elles sont proches de la classe, parce que c'est plus pratique, et un certain nombre comme ça de choses qu'on peut faire, se déplacer dans l'espace de la classe qui est découpé, elle l'a très bien décrit d'ailleurs, Émilie Marchetti, en différents petits coins, le coin lecture, le coin jeu, le coin cuisine, c'est pas une vraie cuisine, mais c'est comme si c'était vrai pour les enfants de cet âge, etc. Au collège, il est hors de question de se lever quand on veut. Est-ce qu'on n'a pas perdu en autonomie, et est-ce que ça envoie pas un message un peu étrange aux élèves? Ou est-ce que cette question est naïve?
Non, pas du tout. Mais dans ce que propose la collègue, j'ai entendu l'espace, le temps, le cadre relationnel. J'ai pas entendu les savoirs. Et je trouve qu'il y a quand même un manque suffisamment important pour mettre en question cette définition de l'autonomie. Parce qu'après tout, apprendre à se déplacer et aller aux toilettes quand on veut, est-ce qu'on est obligé d'être à l'école pour ça? On pourrait faire ça tout à fait ailleurs. Mmh. Alors que l'école ne le favorise pas et qu'on puisse le critiquer, je vous suivrai volontiers. Mais la condition nécessaire n'est pas une condition suffisante.
Et en même temps, cette contrainte sur les corps exercés à l'école, bah c'est aussi le vivre ensemble, si on veut. Enfin, on n'est pas obligé de la critiquer. Mmh. Est-ce qu'elle n'a pas une relation avec l'autonomie intellectuelle? Parce qu'on est quand même la même personne qui fonctionne et qui cherche aussi à émanciper sa pensée.
Je pense qu'elle a une relation, notamment dans le cadre d'une école française qui est très peu portée sur le faire, qui est une école très, très conceptuelle. Et là, en effet, on peut le retrouver. Mais ça me paraît intéressant à prendre en compte s'il y en a une visée cognitive qui est derrière. Et là, je vous rejoindrai tout à fait. Je pense qu'en effet, on voit bien d'ailleurs comment les pédagogies alternatives se sont développées à l'extérieur du système éducation nationale, à commencer par Célestin Freinet et quelques autres qui sont dans de l'imprimerie, dans du fer, dans du fabriqué, et pour lesquels, pour eux, il n'y a pas une rupture entre l'agir et le concevoir. Je pense en effet, voilà, il y a d'autres traditions philosophiques et pédagogiques, Dewey, Vygotsky, un certain nombre d'autres, qui nous montrent en effet ce que Vygotsky appelle la double germination, et les concepts du quotidien qui vont vers des concepts plus généraux, et de la même manière, les concepts plus généraux sont enrichis quand ils reviennent vers le quotidien. Ça, l'école française le fait très mal, mais ça ne doit pas nous amener, à mon avis, à nous focaliser sur la seule autonomie fonctionnelle.
Alors justement, je me suis intéressée à un article du 6 février 2025 sur les mathématiques. C'est un article, je vous l'ai envoyé avant l'émission, Patrick Rayou, d'Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Elle a mené une recherche avec d'autres chercheurs d'autres disciplines sur des enfants de Calcutta. À Calcutta, des enfants de 11 ou 12 ans travaillent comme vendeurs de légumes et ils deviennent ainsi très forts en calcul. Si on leur demande 400 grammes de tomates puis 300 grammes d'aubergines, ils peuvent calculer le prix. C'est pas facile, il y a beaucoup d'adultes d'ailleurs qui arriveraient pas à le faire et rendent très bien la monnaie. Si on demande à des élèves d'une école indienne de faire le même exercice sur papier, ils y arrivent bien, mais si on les met à l'extérieur avec des aubergines et des tomates, ça devient très compliqué. Et ces élèves, ces enfants, parce que ce ne sont pas des élèves justement de 11 ans qui sont si forts pour calculer sur les marchés, quand on leur demande de s'abstraire un peu des légumes et de faire l'exercice de manière posée, eh bien, ils y arrivent beaucoup moins bien. Alors Esther Duflo dit, ça pose des questions qui ne manquent pas de pertinence pour l'école française, puisqu'on sait que cette capacité à réutiliser ce savoir dans la vie pratique, c'est bien une faiblesse de notre système. En tout cas, c'est ce que souligne par exemple l'enquête PISA. Alors, est-ce que c'est une question de pratique? Est-ce que c'est une question de maturité? Ou est-ce que l'école, c'est vraiment un espace à part où on demande une autonomie à part, et pas seulement fonctionnelle? Parce que savoir compter, c'est quand même savoir faire quelque chose avec son cerveau, hein, quand on est en train de vendre des légumes. Et finalement, où ça fonctionne de manière un peu abstraite et on ne sait plus quoi en faire.
Oui, je pense que ce qui est derrière ça, c'est la question de l'étayage pour l'autonomie.
Alors, l'étayage.
L'étayage, c'est le fait que, quand vous avez une vigne ou quelque chose, ou un mât de bateau, il y a un étayage, il y a quelque chose qui l'aide à tenir, hein, ou à se développer. Nous avons, nous, une manière de voir souvent qui pense que les élèves qui sont en difficulté sont des élèves à qui il manque quelque chose. Et donc, on va essayer de faire de la compensation. À mon avis, et pas qu'à mon avis, le problème des élèves qui ont des difficultés, c'est pas qu'il leur manque quelque chose, c'est qu'ils ont, à la place de ce qu'ils devraient avoir, autre chose que ce qu'ils devraient avoir. C'est-à-dire qu'ils sont pas vierges de savoir, ils sont pas vierges de savoir-faire, ils sont pas vierges de connaissances. Ils ont des registres de savoir-faire, qui sont pas ceux de l'école, nécessairement. Alors, il y a deux solutions. Ou bien, on fait comme si ça n'existait pas. Et on risque de faire des greffes qui ne prennent pas, ou bien on s'appuie sur ce que savent déjà faire les élèves, comme nos petits calculateurs de Calcutta, de l'Inde, et on les amène vers des visions plus abstraites, et à l'inverse, on intéresse un peu la partie de ceux qui ont l'approche conceptuelle en leur montrant tous les bénéfices qu'ils pourraient tirer des conceptualisations qui sont les leurs, s'ils étaient capables de les appliquer dans la vie. Nous n'avons pas, nous, cette continuité, en tout cas, c'est pas notre tradition éducative majeure, et je pense qu'on perd beaucoup, et que la question de l'autonomie se trouve mal posée parce que, en effet, nous ne nous appuyons pas sur ce que les élèves savent déjà faire.
En fait, les élèves qui s'en sortent le mieux à l'école, c'est ceux dont les parents sont les plus proches de la culture scolaire.
Parce qu'ils savent déjà faire, donc ceux qui vont avoir à faire.
Ils ne sont pas forcément plus autonomes. En fait, ils ont une forme d'autonomie très adaptée au contexte scolaire.
Bien entendu. De toute façon, l'autonomie, elle est jamais absolue. Hein, et c'est pourquoi c'est se donner en effet à soi-même et se construire soi-même en se donnant des règles. Mais les règles, vous ne pouvez pas les inventer tout seul. Je ne vous parlerai pas si je n'avais pas appris le langage et la langue française. Et ça, j'aimerais inventer. Les poètes l'ont fait, ils ont voulu tout rénover, tant mieux, mais c'est un exercice un peu particulier, c'est poésie, on fabrique. Dans l'exercice normal et dialogique, vous vous battez avec des mots, vous battez avec de l'écriture.
C'est intéressant aussi parce qu'en biologie, aujourd'hui, le concept de l'autonomie est battu en brèche. On dit, les humains valorisent l'autonomie, alors que dans la nature, les êtres vivants, de la bactérie à nous, là, deux dans ce studio, vivent en collaborant ou en concurrence. Mais en tout cas, il y a toujours une relation et on n'est pas dans un monde où des êtres vivants seraient autonome. Alors, je voudrais qu'on revienne à quelque chose de très prosaïque, Patrick Rayou, puisqu'on parle d'autonomie, c'est la consigne scolaire.
Oui.
J'ai toujours été très marquée, très étonnée par les consignes très fermées qu'on recevait à l'école, et je pense que depuis que je suis élève, c'est-à-dire des points retirés si on n'écrit pas à un ou deux carreaux de la marge, ça peut arriver, des points retirés si on écrit en noir et pas en bleu. Est-ce que là, c'est pas aussi, alors vous allez me parler d'autonomie fonctionnelle, une manière de cornaquer les élèves et de les contraindre pour leur dire, vous n'êtes pas autonome dans cet espace scolaire?
Oui, je pense que c'est une tendance qui guette chacun d'entre nous enseignants, c'est-à-dire le fait de se replier sur des règles simples. Et de la même manière, les élèves ont aussi peuvent avoir tendance, quand ils sont en difficulté, à se comporter de cette manière-là. On voit, par exemple, dans un travail que j'ai fait avec des collègues sur le commentaire littéraire, on voit que les élèves, aux grandes dames parfois de leurs enseignants, aiment bien aligner les figures de style, savoir s'il s'agit d'une métaphore ou d'une métonymie, etc. C'est une forme de réduction de la complexité qui est en effet le contraire de l'autonomie et qui peut avoir lieu à l'école. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait plutôt amener les élèves à réfléchir par problématisation. Et ça, c'est d'un niveau supérieur et de plus en plus appelé par les curriculums contemporains. Je crois que nous sommes aussi à... La manière de construire les savoirs scolaires et de savoir quel type d'individu on veut former à partir de quel type de savoir. Et dans l'histoire, ça change. Hein. On a voulu former, on peut former des guerriers, on peut former des religions, on peut former des citoyens. Il y a des curriculums différents qui se mettent en place autour de ces finalités. Et je crois qu'il est toujours bon de venir aux finalités. Si on veut former des citoyens à esprit critique dans les temps troublés que nous vivons, je crois qu'il est important de savoir quels apports on peut, quels étayages on peut procurer aux élèves pour qu'ils deviennent vraiment autonomes.
Vous parliez de texte. On va réfléchir à un texte.
France Culture. Être et savoir, Louise Touré.
Hey, Andy. Hey, Andy. C'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, Andy, quoi. Oh, dis-moi oui.
Plaisir d'écouter Lerita Mitsouko dans Être et Savoir. On parle d'autonomie des élèves avec vous, Patrick Rayou. Comment la développer dans ce livre qui est aussi drôle, en fait, l'autonomie des élèves, Patrick Rayou, vous mettez en avant des discussions autour de textes de chansons. Et parmi eux, ce texte, il y a aussi le chant des partisans, donc aucun rapport. Et les élèves échangent de manière assez surprenante sur ce qu'ils comprennent ou ce qu'ils ne comprennent pas de cette chanson. Pourquoi avoir pris ces séquences et que nous apportent ces discussions d'élèves? Qu'est-ce qu'on peut en retirer?
Oui, nous sommes dans un cadre dans lequel l'organisation dans lequel sont ces élèves essaie de leur faire faire des chroniques musicales. Hein. C'est-à-dire que, précisément, ils essaient de leur faire passer de leur propre culture musicale à une culture scolarisée, c'est-à-dire dans quelque chose qui suppose de la réflexivité, de la distanciation, etc., etc. Alors ça marche pas toujours dans les cas qui sont là, d'une part parce que les enseignants ont parfois tendance à croire que leur propre culture musicale parle immédiatement aux élèves. Vous voyez, si aujourd'hui vous parliez d'Erita Mitsouko qui vous font vibrer, moi aussi il y a des élèves d'aujourd'hui, voilà, ils trouveraient que c'est le... D'ailleurs, je pense qu'ils les connaissent pas, ils penseraient que c'est le summum de la ringardise. Donc il faut faire attention à cette façon de vouloir... capter les savoirs expérientiels des élèves pour penser qu'ils vont transférer immédiatement en savoir scolaire. D'ailleurs, il peut y avoir des réflexes inverses. Lorsque les élèves sont amenés aujourd'hui à travailler sur le slam, le rap, etc., parfois ils le prennent très mal parce qu'ils pensent qu'on leur vole leur culture et que l'école n'a pas à faire ça. Mmh. Donc il y a un travail très délicat à opérer pour à la fois être proche d'eux, mais en même temps scolariser, parce qu'encore une fois, et vous voyez bien que c'est quelque chose que je répète beaucoup et peut-être de manière lassante, mais travailler à l'école, c'est pas comme être dans le reste de la vie. Il y a une façon
abstraite,
etc., très formelle, et qui est d'une certaine façon indépassable. Alors, on peut le rendre plus aisé, plus souple, mais le moment où vous passez de savoir comment on fait du vélo et comment il faut se pencher dans les virages, au moment où vous faites l'équation des forces qui s'exercent autour de la roue du vélo et de la potence pour savoir pourquoi ça tient ou pas, il y a là un saut qui, précisément, suppose de l'autonomie intellectuelle.
Et bien cadré, hein. Bien cadré, oui. Parce que c'est comme ça qu'on peut essayer de combler, oui, ces différences sociales, oui, dont vous avez parlé, auxquelles on va peut-être revenir. Alors, on s'est intéressé à la maternelle, on va faire un grand bond en avant, en tout cas scolaire, avec Céline Kael, qui est professeure agrégée de sciences économiques et sociales. Elle va nous parler de l'autonomie au lycée, elle qui est aussi formatrice académique, membre d'une équipe qui travaille sur la coopération. Ça peut vous intéresser, Patrick Rayou. Elle est membre également des Cahiers pédagogiques, une revue qu'on lit souvent pour s'informer voilà, sur comment des professeurs réfléchissent à la pédagogie. Eh bien, on a parlé aussi d'intelligence artificielle, évidemment. On a commencé par se demander ce que signifiait donc l'autonomie au lycée.
Alors, l'autonomie des élèves au lycée, pour moi, c'est deux choses qui sont assez différentes. Il y a d'abord ce que je vais appeler l'autonomie fonctionnelle. C'est vraiment l'idée de conduire par soi-même ses apprentissages. Les élèves, ils doivent à ce moment-là être capables de demander de l'aide, de faire des recherches par eux-mêmes, d'être lucides sur leur parcours scolaire aussi, de savoir où ils en sont, ce qu'il leur reste à parcourir pour atteindre des objectifs s'ils en ont. Mais finalement, ça, c'est pas l'indépendance. Et souvent, quand on débute, en tout cas, moi, c'était mon cas quand j'ai débuté, pour moi, l'autonomie, ça voulait dire être indépendant. Donc, je m'évertuais à dire des choses aux élèves du style « essayez de faire seul, essayez de vous débrouiller, je ne serai pas toujours là pour vous aider ». En réalité, l'autonomie, c'est différent, c'est conduire par soi-même. Les apprentissages, ça veut dire être capable de demander de l'aide et de cibler sur quoi on a besoin d'aide. Pour moi, la deuxième forme d'autonomie, et j'y tiens, c'est l'autonomie politique. Parce que si on se concentre sur le fait de pouvoir conduire soi-même ses apprentissages, c'est très bien, on peut devenir très productif et très performant. Mais peut-être que le risque de se concentrer que sur cette autonomie, c'est de faire des futurs travailleurs, des futurs employés, très performants, mais pas forcément critiques. Et l'autonomie politique, c'est l'idée de penser par soi-même, de manière informée. Et c'est aussi une forme d'autonomie forte qui, à mon avis, est importante au lycée et qu'on peut développer au lycée.
Quelles pratiques mettez-vous en place pour favoriser ces deux autonomies des élèves ?
On peut dire qu'on aide les élèves à faire des fiches de révision, par exemple. C'est bien, mais faire des fiches de révision, c'est pas forcément une bonne méthode d'apprentissage pour tout le monde. Donc l'idée de l'autonomie, c'est de faire prendre conscience aux élèves des méthodes qui marchent pour eux. Donc de leur proposer tout un panel et de leur faire tester ce qui fonctionne pour eux. Donc ça peut être une idée. Après, l'autonomie en classe, l'idée de se mettre en activité en classe et de conduire ses apprentissages pendant le cours, puisque c'est ça qui est important aussi, à mon sens, ça se fait pas sans motivation.
Que pensez-vous de la manière dont l'IA percute cette notion d'autonomie, de penser par soi-même quand des réponses assez élaborées peuvent être obtenues en quelques secondes ?
Je pense qu'il y a plusieurs manières de voir les choses et que ces manières ne s'opposent pas. Une manière, ça peut être de se dire les élèves l'utilisent de toute façon. Donc il faut les accompagner vers l'utilisation. Parce qu'en fait, utiliser l'IA ne veut pas dire être autonome. Parce que demander et donner la consigne à l'IA ne veut pas dire réussir l'exercice. Par contre, si les élèves réussissent à bien orienter l'IA, ils peuvent très bien réussir les exercices et dans ces moments-là, ils rentrent dans ce qu'on va appeler la métacognition. Donc, ils savent exactement ce que l'enseignant leur a demandé et comment faire réussir l'IA leur permet en fait de réfléchir au savoir et à la construction de celui-ci. Moi, honnêtement, aujourd'hui, des élèves qui donnent la consigne à l'IA de ce que je leur ai demandé à faire, souvent la réponse n'est pas très bonne parce qu'elle ne se base pas sur les notions de cours, parce qu'elle est un petit peu déconnectée, elle part pas dans le sens et dans la méthode qui est attendue pour le bac, par exemple. Donc, s'ils arrivent à bien orienter l'IA, en fait, ils ont très bien compris l'exercice. Et souvent, ils peuvent ensuite réussir par eux-mêmes. Après, l'autre manière, c'est de se dire, en fait, tout ce qu'ils font faire à l'IA, par exemple, certains élèves demandent à l'IA de leur poser des questions. Ils photographient leur cours, le téléchargent sur la plateforme qu'ils utilisent, comme ChatGPT, par exemple, et l'IA est censée leur poser des questions. Et en fait, ça, à mon avis, il faut faire prendre conscience aux élèves que s'ils le font entre eux, c'est-à-dire que s'ils se voient eux-mêmes comme des personnes valables et des ressources valables pour le faire, ils apprennent beaucoup. Après, il y a une troisième voie qui, moi, me tient vraiment à cœur, et là, on reparle d'autonomie politique, c'est de montrer aux élèves, en tout cas de les éduquer à ce choix qu'ils font d'utiliser l'IA. Quand on utilise l'IA, c'est pas un choix neutre, c'est un choix énergivore, et les élèves ne le savent pas nécessairement. Ils ne se rendent pas forcément compte des conséquences des outils qu'ils utilisent sur la planète. Et la deuxième chose, qui détient aujourd'hui l'IA, c'est les géants de la tech. Et c'est les géants de la tech qui soutiennent également aujourd'hui la présidence de Donald Trump, pour en tout cas la majorité d'entre eux.
Mais Céline Kael, on attend au lycée des élèves qu'ils réfléchissent, pas seulement qu'ils connaissent ce qu'il y a dans le cours. Réfléchir, ça se fait aussi à l'écrit. Est-ce que l'IA ne va pas les empêcher, en donnant si rapidement des réponses, de réfléchir de manière autonome, par eux-mêmes ?
Si, bien sûr que c'est une question et bien sûr que c'est un doute. Lors de la restitution, à l'écrit, normalement, si tout est bien surveillé, ils n'ont pas l'IA avec eux. Donc, si on pense que l'autonomie, c'est un moyen vers les apprentissages, c'est-à-dire que les élèves doivent être capables de conduire leurs apprentissages par eux-mêmes pour arriver à un moment où là, ils vont être seuls, c'est le moment de l'évaluation. Et c'est un moment où ils ont du temps pour poser leurs pensées et où cette réflexion est évaluée, sans IA. Donc finalement, même si dans ce parcours, ils utilisent l'IA, s'ils savent comment l'utiliser, s'ils arrivent à déconstruire finalement ce que l'IA a construit pour pouvoir le faire, mais de manière indépendante, peut-être que ça peut être un support. Peut-être que ça peut être une aide, que c'est un moyen vers les apprentissages. Ça, c'est, voilà, c'est une manière de voir les choses. Nous, dans notre équipe, on est assez divisés. On a aussi des collègues qui préfèrent vraiment arrêter aujourd'hui les devoirs maison, en fait, les devoirs à la maison, pour créer des moments de réflexion ensemble, sans l'IA, en classe.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Comment rendre les élèves autonomes? Quels sont les impensés que charrie cette question? On en parle ce soir avec vous, Patrick Rayou, sociologue, spécialiste des questions éducatives. Vous publiez L'autonomie des élèves aux presses universitaires de Lyon. On a parlé d'intelligence artificielle, dont on peut peut-être s'emparer de manière intelligente, mais dont on sait aussi qu'elle fournit, on l'a dit à l'instant, des réponses ultra rapide et qu'on n'a pas toujours un professeur pour aider les élèves à complètement y réfléchir. Hein, faut de temps aussi. Alors que pensez-vous de l'arrivée de cette question dans l'école, dans les apprentissages, dans les pratiques des élèves et de ce qu'elles pourraient faire à leur autonomie?
Oui, alors je pense que c'est une question redoutable. Hein. Et on voit bien qu'il est difficile d'avoir des avis totalement arrêtés sur la question parce que je crois qu'il faut se faire aussi à cette irruption et la maîtriser. Néanmoins, il me semble que les problèmes que pose l'IA sont des problèmes qui se posent déjà à l'éducation avant même l'apparition de cette technologie sophistiquée. La façon dont les élèves utilisaient les moteurs de recherche posait déjà la question de l'autonomie. Pour certains, nous le savons bien, ils se fient aux premières lignes de la page Google qu'ils ont trouvée et ils prennent les résultats qu'ils trouvent. Ils appellent ça faire des recherches, d'ailleurs, avec une sorte de confusion aujourd'hui entre voilà recherche et puis appuyer sur un bouton qui va sortir des résultats. Là où d'autres mettent en doute, en perspective, disent il vaut mieux aller sur Wikipédia, qui aujourd'hui est revalorisé parce que c'est une encyclopédie qui est sous contrôle, je dirais. Donc, cette question-là du traitement des données, elle se pose. Je crois qu'elle va aussi susciter la part des enseignants la nécessité de les mettre en éveil sur les bases de données elles-mêmes. Nous savons que les bases de données, c'est pas des êtres autosubsistants qui ont toujours été là. Elles sont construites en fonction de points de vue. Il y a ces cas célèbres dans lesquels on voit que dans des logiciels de reconnaissance faciale, le nombre de femmes noires suspectes est beaucoup plus important parce que les logiciels ont été faits par des hommes blancs qui, etc., etc., voilà, et que la machine n'est pas du tout indépendante des présupposés et des arrière-plans souvent inconscients des gens qui l'ont fait. Donc, c'est un appel à la vigilance critique et au fond, l'idéal même de notre école. Donc, on veut dire que l'IA nous met au défi de ça. Il me semble que, par ailleurs, ça devrait vraisemblablement rebattre le jeu de cartes concernant les modalités d'évaluation, les modalités même d'organisation de la classe, voire de la semaine. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais à mon avis, on est dans un moment de réflexion là-dessus. Le fait de donner, comme les collègues de cette, ouais. de cette Céline, que des
Céline
collègues ne
Kael.
Donnent plus de devoirs, pardon ?
Céline Kael, je redonne son
d'accord.
nom de famille.
Que certains enseignants ne donnent plus de devoirs, ça peut tout à fait se comprendre. J'ai vu que dans certains établissements, on essayait de recaser dans les emplois du temps, lorsqu'il faut des évaluations, des séquences de 3 heures ou 4 heures quand il y a des dissertations, pour que les élèves soient là vraiment seuls. Mais l'intéressant, c'est l'entre-deux. S'ils peuvent utiliser les prodiges que nous amène l'intelligence artificielle, c'est absolument fabuleux. On peut imaginer aussi qu'on évalue les élèves sur leur capacité à mobiliser l'IA.
C'est
tout à fait ça, alors qu'on peut très bien mobiliser des exercices classiques pour, comme je vous le disais, régurgiter les figures de style ou les équations et les oublier le lendemain de l'évaluation.
Comment vous expliquez que beaucoup d'élèves, alors vous allez me dire c'est socialement situé, mais tout même. On leur répète depuis tôt dans leur scolarité qu'on attend d'eux qu'ils travaillent par eux-mêmes, une forme d'autonomie, qu'on ne veut pas qu'ils recopient des réponses toutes faites, qu'on ne cherche pas d'eux qu'ils se fassent aider absolument, mais voilà, qu'on veut savoir s'ils y arrivent ou non pour éventuellement leur expliquer quand tout se passe bien. et parfois ça se passe bien. C'est comme ça que se déroulent les échanges avec le professeur, que ce qui compte, c'est leur réflexion. Finalement, bah, tout ça, ça part aux orties une fois qu'on a, pour certains, quelque chose qui donne très très vite un plan tout fait de dissertation, même si après on l'écrit. Et les plans générés par les IAS, ça va pas du tout. Hein. D'ailleurs, l'enseignante le dit, ça correspond pas au cours souvent.
Oui, oui. Ben, je crois qu'il y a deux choses qui se télescopent malheureusement. La première, c'est que nous sommes dans un système, je crois qu'Anne Barrère pour le lycée avait calculé qu'un élève recevait une note tous les une note par jour tout sur les jours ouvrables voilà de l'année, ce qui est absolument considérable. Il y a des pays qui sont pas moins développés que nous, je pense à des pays nordiques dans lesquels vous ne recevez pas une note avant 16 ans. Je pense que ça change beaucoup. La manière dont les élèves se situent, parce que vous avez beau leur dire qu'ils travaillent pour eux sur la longue durée, qu'on apprend de ses erreurs, etc. Ce qu'ils voient, c'est la moyenne à la fin du mois, à la fin du trimestre, et le rôle que ça va jouer, y compris dans des dispositifs qui accélèrent aussi beaucoup la nécessité de se, je pense à Parcoursup par exemple, hein, de se déterminer. Il y a ça, et le fait que l'appel à l'autonomie peut être un appel incantatoire tant que je n'aide pas les élèves qui sont devant la difficulté à trouver les moyens dont ils ont besoin à ce moment-là.
Donc il faut expliquer très concrètement comment on doit réaliser le travail tout seul. Ça, c'est pas empêcher les enfants d'être autonomes. Enfin, je peux pas m'en empêcher. Élèves, en tout cas, à le réaliser tout seul ou en demandant de l'aide ou en allant chercher des ressources en les donnant précisément.
Oui, mais vous pouvez leur donner l'explication verbale, je dirais, c'est pas ça. Il faut leur donner des exemples à un moment.
C'est la pédagogie explicite, ça?
Oui, ça fait partie de la pédagogie explicite, mais encore faut-il aller au stade suivant qui consiste à savoir comment l'élève a compris la consigne que vous avez explicitée. Parce que si la pédagogie explicite, c'est comme le disent parfois certains de ces théoriciens, c'est mettre un haut-parleur sur la pensée du professeur pour qu'elle soit explicite, c'est déjà une très bonne chose. Il n'est pas du tout certain que la personne qui est en face et les personnes qui sont en face vont l'avoir entendu de la même manière. Chaque personne entend ce qui lui est dit à travers un prisme qui lui est particulier, qui relève de sa socialisation, etc. Et le fait d'avoir des énoncés clairs, malheureusement, ne suffit pas.
Donc c'est pas parce qu'on explique comment on a calculé 12 plus 42, je dis n'importe quoi, en découpant bien sa pensée, que l'élève peut le refaire.
Non, je pense, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand les parents enseignants font travailler leurs propres enfants, ce qu'ils font, ils font de l'explicitation, mais ils font surtout de la pression à l'explicitation. C'est-à-dire, ils leur disent « t'as trouvé ça, mais comment t'as fait pour le trouver ?» Et là, on est dans de la métacognition, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et ils excellent à faire travailler leurs enfants de cette manière et à leur faire intérioriser sans même qu'ils s'en rendent compte cette manière quand je suis devant une feuille. Que suis-je en train de faire? Qu'est-ce qui m'est demandé?
Pas construire son savoir, mais c'est comprendre ce qu'on fait quand on est en train d'apprendre.
C'est ce que font tous les travailleurs, d'ailleurs. Les travaux de clinique de l'activité vous montrent que les collectifs de travailleurs devant des difficultés sont en train de se demander... Qu'est-ce que ça demande de faire ce qu'on nous demande de faire? Et là, on est dans des processus d'autonomie.
Et d'ailleurs, les professeurs des classes collaboratives le font faire aux élèves entre eux. C'est-à-dire qu'ils les font s'expliquer entre eux les concepts, les savoirs mobilisés.
Alors ça peut être ça, c'est pas toujours ça, mais si on est dans du coopératif, parce que vous savez, il y a parfois une distinction entre le collaboratif et le coopératif.
C'est peut-être coopératif, d'ailleurs, le mot que j'aurais dû utiliser.
C'est ça qui est plus exigeant. Hein,
oui, c'est peut-être le mot coopératif. Voilà, je suis pas enseignante de ce genre de classe moi-même, mais c'est vrai que.
Normalement, vous sortez avec des choses que vous ne saviez pas au départ, et là, vous vous êtes en effet apporté quelque chose mutuellement.
Alors, le dernier sujet dont je veux absolument qu'on parle, Patrick Rayou, si on se demande comment acquérir de l'autonomie dans ses savoirs, mais finalement, bien pourquoi faire? Et vous mentionnez un livre tout à fait important, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, de Boltanski et Schiapello, Luc Boltanski et Schiapello, publié en 1999. Livre qui critique la société par projet. On est soi-même d'ailleurs un projet qu'on va développer, qu'on va aussi promouvoir, peut-être même vendre, puisque on doit travailler. Donc c'est mettre en avant son adaptabilité, sa mobilité, sa créativité, son goût du risque, tout ce qu'on peut mettre dans un CV aujourd'hui, et aussi son autonomie. Ça pose la question de ce qu'on cherche à développer comme qualité Et je vais vous dire aussi quelque chose qui m'a semblé important, Patrick. Vous dites, oui, moi, quand j'étais à l'école, il y a quelques années, au XXe siècle, on ne m'a pas appris à faire tout ça. Pour autant, vous êtes devenu chercheur et vous pensez sûrement que vous réfléchissez de manière autonome. Les adultes réfléchissent souvent de manière autonome ou pensent qu'ils le font. Alors finalement, cette vulgate sur l'autonomie, est-ce qu'elle ne sert pas à vendre un autre discours, une autre vision de l'individu et de sa place dans la société?
Oui, alors je crois qu'il y a deux questions dans votre question. La première, c'est en effet des gens comme Boltanski et d'autres qui ont attiré notre attention sur le fait que cette visée d'autonomie, elle n'est pas proprement scolaire. Elle est portée par des demandes sociales. Et quand vous lisez les textes de l'UNESCO ou de l'OCDE, vous voyez bien comment, à un moment donné, ces notions d'autonomie sont entrées, n'ont pas toujours été là. Et comme très souvent d'ailleurs, et je crois qu'on réfléchit pas assez à ça, les finalités, les visées pédagogiques viennent de l'extérieur de l'école. La pédagogie par objectif, etc. Les compétences, ça vient du monde de l'armée, de l'entreprise, etc. Et c'est normal d'ailleurs parce que l'école n'est pas hors sol. Il est normal qu'elle soit travaillée par
les valeurs. La coopération aussi d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Il est normal qu'elle soit l'accompagnement, vient du monde du soin. Il est normal qu'elle soit travaillée par les valeurs du social. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'elle réfléchisse elle-même à comment elle est capable de le mettre en œuvre et comment elle n'est pas victime de sirènes de l'individu autocréé. Je parle du film de Ken Loach à un moment donné dans lequel on voit que devenir auto-entrepreneur de sa propre destruction professionnelle, c'est quelque chose qui est terrible. Les gens ne sont plus salariés, n'ont plus de profit. Au motif de l'autonomie, vous allez créer votre auto-entreprise. Évidemment, ça ne marche pas toujours. Et le risque pour les élèves, c'est qu'on les prenne pour des auto-entrepreneurs sans leur donner à un moment donné ce que ceux qui réussissent sont appris à l'extérieur de l'école. Parce que c'est quand même comme ça que ça marche dans la plupart des cas. Les apports pour devenir autonome ont souvent été acquis à l'extérieur du monde scolaire. Après, vous évoquez des exceptions. On parle parfois d'exceptions consolantes.
Je suis un enfant de l'école
républicaine, comme d'autres. Mais si vous regardez, là, c'est le sociologue qui va faire le mauvais esprit. Mais statistiquement, qu'est-ce que ça représente? Voilà. Il y a des bonheurs de vie, il y a des circonstances qui font que, heureusement, tout n'est pas déterminé. Mais globalement, il y a des formes de reproduction. Et la question de l'autonomie se retrouve confrontée à ça. Parce qu'encore une fois, les aides pour devenir autonomes sont largement externes. Si vous prenez le cas des jeunes filles, qui sont les meilleures élèves jusqu'au baccalauréat, on trouve qu'elles sont autonomes parce qu'elles sont capables de s'organiser, d'être collaboratives. Les professeurs les aiment bien parce qu'elles sont moins gênantes que les garçons.
Moins turbulentes.
Voilà.
Perçues comme moins
général. Elles rentrent dans les cadres spatio-temporels. Elles travaillent régulièrement et pas à l'arrache comme les garçons, etc. etc. Lorsque vous passez le baccalauréat, ce sont d'autres valeurs d'autonomie qui sont mises en avant, où il faut être plus entreprenant, y compris plus disruptif. Et là, les garçons, ceux qui sont restés dans l'enseignement général et technologique, s'imposent face aux filles. Un cas tout à fait typique, et j'en resterai là pour pas trop mordre sur le temps. Aujourd'hui, la majorité des diplômés de médecine sont des filles. Lorsque vous regardez où elles sont employées, elles sont surtout dans la médecine salariée, surtout dans les généralistes, beaucoup moins dans les spécialités médicales de haut niveau. Est-ce qu'elles n'ont pas les capacités? Bien évidemment non, sauf à tomber dans une
forme. Oui, elles les ont, les capacités.
Mais bien évidemment, oui. Mais il y a quelque chose qui les empêche d'être autonomes parce qu'il y a tout un ensemble de contraintes sociales, de calculs qu'elles font sur le fait d'avoir à se battre dans un univers masculin, de s'occuper des enfants le soir quand elles vont rentrer, etc.
Et les calculs et le fait de devoir vraiment se battre.
Et de devoir vraiment le faire parce qu'il y a une division du travail qui demeure malgré tout ce qu'on peut dire. Donc, vous voyez, là, on est bien dans un cas d'autonomie qui font qu'elles ont été autonomes jusqu'à un certain temps. Elles ne le sont plus après, ou en tout cas, elles le sont jugées moins. Ça pose un problème, de mon point de vue, de définition et de construction de cette autonomie.
Par quoi remplacer ce mot et ce concept d'autonomie?
Je ne crois pas qu'il faille le remplacer. Je crois qu'il faut se demander à quel prix on l'obtient et à quel moment.
Alors, par quoi l'accompagner?
Oui. Et au lieu, si vous voulez, de déplorer comme prof de lycée que les enseignants de collège ne m'ont pas envoyé des élèves autonomes, c'est de me demander moi-même à quel moment je les aide à être autonomes pour qu'ils soient autonomes à l'université.
Merci beaucoup Patrick Rayou de nous avoir aidé à réfléchir à cette belle question de l'autonomie des élèves. Je conseille à tous les auditeurs et auditrices la lecture de ce livre donc, qui est publié aux presses universitaires de Lyon, « L'autonomie des élèves, injonctions, pratiques et inégalités ».